Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, en ce 24 janvier, c'est la fête de Saint-François de Sales, dont je vous avais parlé longuement à pareille date l'an dernier. J'ai raconté toute sa vie, du début à la fin, en autant que c'est possible, au cours d'une brève émission d'une heure. Et cette année, je voudrais surtout parler de ses œuvres. Je voudrais compléter, en fait, l'émission de l'an dernier. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Saint-François de Sales, pour le situer un peu, est mort en 1622. Ça vous le situe, c'est déjà longtemps, comme on voit. Et pourtant, sa doctrine est une doctrine tout établie sur la douceur et sur l'amour. Et pourtant, on entend souvent dire que dans l'Église, on nous enseignait un Dieu terrible, et puis, savez-vous que le livre qui se vendait le plus après la Bible en France et ici, c'était le traité de l'amour de Dieu de Saint-François de Sales. C'était un best-seller, s'en est vendu des millions d'exemplaires. C'est que Saint-François de Sales a plu à énormément de gens, parce que lui, pour s'élever à la sainteté, il s'est attaché, d'accord, à la réflexion, à la prière, mais il a toujours été très humain. S'il s'est appliqué le matin à son oraison, à la prière, si même il récitait son chapelet en méditant les mystères, il était surtout fidèle à la présence de Dieu. On dit qu'il s'est fait au-dedans de lui-même comme un temple, une solitude intérieure, où il était tellement attentif à Dieu qu'il semblait ne pouvoir en être distrait par aucune affaire, et pourtant, il était présent à chacun. Il était là avec le monde, souriant, aimable et avenant. Amiable, comme il dit souvent, aimable. Il blaguait en disant de la mort, il faut mourir entre deux oreillers. L'un de l'humble confession que nous ne méritons que l'enfer, et l'autre d'une entière confiance que Dieu, dans sa miséricorde, nous donnera le paradis. C'était un homme au tempérament coléreux, c'est drôle, hein? Tempérament vif, on le voit dans son écriture d'ailleurs, c'était un impatient. Il a longtemps été impatient, vif, coléreux. Mais petit à petit, à force d'examen de conscience, de combat puis de victoire, il en est arrivé à maîtriser son humeur. C'est un évêque de Genève, une ville protestante, il pouvait même pas y habiter vraiment, en Suisse. Et son zèle pour le salut des âmes, même des protestants, c'était une vertu qui était encore peut-être plus dominante chez lui que la douceur, dit sainte Jeanne de Chantal, sa grande amie, sa dirigée. Son âme allait droit à la vérité, hein, droit à Dieu. Il était extraordinaire. Il est né le 21 août 1567, il y a exactement 430 ans, quoi. Je vous ai dit que c'était un écrivain très important. Il était l'objet de cours et de travaux à travers le monde, dans les universités, jusqu'à tout récemment. Je ne sais plus si on fait des travaux sur l'œuvre de Saint-François de Sales, mais pendant des siècles, on en a fait. Et il compte comme l'un des plus grands maîtres spirituels du christianisme. Ses écrits, là, surtout l'introduction à la vie dévote, puis sa propre vie d'ailleurs, ont influencé le XVIIe siècle, où il est mort, et ça a influencé toute la spiritualité moderne. Les écrivains spirituels depuis des siècles ont été touchés par Saint-François de Sales. Il faut reconnaître même que notre civilisation a été touchée par la pensée de Saint-François de Sales, tant ses livres ont été lus, médités, relus et relus. Pour les gens cultivés, croyants ou non d'ailleurs, Saint-François de Sales demeure, il me semble, un esprit de premier plan, même si on n'ose plus le dire. Il mérite donc que l'on rappelle comment, après la Renaissance, Il a renouvelé la spiritualité dans le sens d'une promotion des laïcs. Bien oui. Pour rendre intelligible cette influence, il faut rappeler rapidement peut-être sa vie. Bon, je le fais très rapidement. Lui qui doit devenir évêque, il reçoit une formation de gentilhomme et d'humaniste de son père, de sa famille. Il comprend mieux les besoins des laïcs d'alors, qui étaient déjà très différents des laïcs du Moyen-Âge. Son père est un lettré, c'est un ami d'ailleurs d'un grand humaniste, Claude de Butet. Il envoie très tôt son fils dans les bonnes écoles et à 11 ans, François de Sales arrive à Paris avec un précepteur déjà, comme s'il était pensionnaire au collège à Paris. Et de 1582 à 85, il se consacre spécialement à ce qu'on apprend chez les nobles. Qu'est-ce qu'on apprend chez les nobles? D'abord l'équitation, l'escrime, la danse, et on dit qu'on apprenait aussi, comme quatrième connaissance, la politesse. Étrange. Il étudie ensuite chez les jésuites de Clermont. Ça s'appelle aujourd'hui le collège Louis le Grand. Et il étudie les belles lettres et la philosophie. Mais comme il l'a écrit, pour se plaire à lui-même, dit-il, il s'initie aussi à la théologie. Il doit dans la suite montrer qu'il n'a pas peur de combattre, parce qu'il est prêtre déjà et missionnaire chez les protestants à une époque où l'écuménisme et la semaine de l'unité n'existaient pour ainsi dire pas. Il était missionnaire chez les protestants du Chablais, puis un jour il est attaqué, il risque même d'être assassiné par les protestants. Alors son père s'inquiète pour sa vie et demande son retour, mais il est très calme devant tout ça. Et il ne s'en fait pas. Il prétend que c'est pas si grave. Il a à Paris une terrible crise d'angoisse à un moment donné au sujet de la prédestination. Les gens plus âgés se souviennent qu'il y avait des théories comme ça qui circulaient encore, et ça circulait dans son temps très fortement. Nous étions, paraît-il, prédestinés, soit à s'en aller en enfer, soit à aller au ciel. Dieu nous classait comme ça, c'était inconcevable, hein? Alors il s'en délivre par un acte d'héroïsme et d'abandon à la miséricorde de Dieu. Il va en Italie, à Padoue, il étudie le droit. Puis, en réaction contre l'angoisse qui l'habite, il suit les directives de ses maîtres, les jésuites. Il décide pour ce qu'on appelle le molinisme, c'est contraire à la doctrine de la prédestination. Ça fait une doctrine qui fait confiance à l'homme, confiance à Dieu. Et François est enfin, en 1592, de retour en Savoie, car il est de la Savoie, dans le sud de la France, près de l'Italie. C'était un pays presque libre à l'époque, et son père veut en faire un sénateur. Il le fait recevoir avocat. Puis il l'oblige à rendre deux visites à une jeune fille riche, Françoise de Mirbel, mais le jeune François de Sales est courtois. Mais les choses en restent là, et François dit enfin à son père sa volonté déterminée de devenir prêtre. Là, son père ne cède que lorsque la dignité de prévôt du chapitre des chanoines est offerte à son François, son fils aîné. Finalement, il est ordonné prêtre, en 1593, très jeune. Et puis, très vite, Saint-François de Sales se propose pour aller essayer de convertir le Chablais protestant. Bon. Mais presque seul, il se dépense sans compter. Il utilise un moyen tout nouveau, Il distribue des tracts à domicile. Et ça va former le livre qu'on appelle le livre des controverses. Il utilise surtout des entretiens particuliers avec les protestants. Il se montre amical, compréhensif. Et c'est assez exceptionnel pour l'époque. Il a toujours été personnellement opposé, d'ailleurs, aux moyens de coercition pour convertir les autres. Sa patience, d'ailleurs, et sa douceur l'ont emporté. On lui attribue plus de 25 000 conversions de protestants au catholicisme dans cette région. Il faut dire que ça tenait beaucoup à des questions politiques, ces séparations dans le christianisme à l'époque. Nommé coadjuteur de son évêque, le 22 mars 1599, juste à la fin du siècle, il doit faire un long séjour à Paris, puis une partie du diocèse dépend en effet de la France, plutôt que de la Savoie, Et il apprend ainsi à connaître le mouvement religieux dans la capitale, à Paris, autour de Madame Akkari, dont je vous parlerai bientôt. Et très vite, ce jeune évêque y est considéré comme un maître. Et d'ailleurs, ses premières lettres le prouvent. Avant ce séjour, où il était déjà en possession de ses principales idées sur la spiritualité, il est nommé évêque de Genève, ville protestante, donc en 1602. Mais il doit habiter Annecy, parce que il n'est pas bienvenu. Mais c'est surtout par son introduction à la vie dévote et par ses lettres que nous connaissons ses idées. Ses idées sur l'appel des laïcs à la perfection de la charité, à la sainteté, quoi. Et sur les moyens que les laïcs doivent employer pour marcher dans cette voie. Il faut donc rappeler ce qu'elle est. Le point de départ, c'est les lettres de direction qu'il a adressées à une personne du monde, Madame de Charmoisy, puis il les refond, il les développe, puis il en fait un livre qui paraît en 1608. Saint François de Sales s'adresse dans l'introduction à la vie dévote à l'âme chrétienne, qu'il appelle philotée. Ça représente aussi bien les hommes que les femmes. Il y précise ce qu'il entend par la dévotion, introduction à la dévotion, à la vie dévote. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot qui est bien mal compris aujourd'hui. On dit un dévot, ça ne veut pas dire grand-chose. La dévotion, on s'en moque aujourd'hui. Mais c'est pas ça que ça veut dire dans ce temps-là. C'est la tendance générale à la perfection de la charité envers Dieu puis envers le prochain. C'est ça la dévotion. Et pour y travailler, bien, il dit qu'il faut d'abord se purifier et méditer. Les gens du monde, ils sont appelés. Eux aussi, tout le monde, n'importe qui. Il faut rechercher quoi? Les vertus les plus humbles. Et presque la moitié du livre est consacrée aux vertus à pratiquer. C'est pas facile à lire aujourd'hui. Il faut tomber sur une traduction qui est adaptée à notre langue d'aujourd'hui. Il s'y révèle d'ailleurs comme un profond psychologue, un très grand moraliste. Et on doit être fidèle à son devoir d'État, dit-il. Être fidèle à son devoir d'État, c'est être fidèle à ce qu'on a à faire dans le moment présent. Et être fidèle à un devoir d'État, même les plus ordinaires, les plus modestes. Être charitable aussi envers le prochain, dit-il. Garder le calme au milieu même des tentations. C'est pas facile, ça. Ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu avec un grand amour, dit-il. On peut dire que même un agnostique pourrait lire ce livre du simple point de vue de la psychologie. La forme de ce livre est charmante dans un sens, mais c'est un style dépassé. Je vous le dis, il faut prendre une traduction intéressante. Les éditions du Seuil en ont publié un il y a quelques années, mais je ne l'aime pas, c'est trop dépassé. Mais j'ai une traduction de 1695 qui est dépassée aussi. Mais chose étrange, il est dit au début que c'est une traduction pour ceux à l'usage des personnes peu accoutumées au vieux langage. Déjà, le langage changeait beaucoup. Et alors, ça peut se lire facilement quand on a une bonne traduction. Et cet ouvrage, peut-être un peu lent, mais il y a des belles images. On dit parfois que c'est mièvre, mais c'est sûr que François de Sales cherche à adoucir, même quand ses exigences sont crucifiantes. Mais le ton est plus varié qu'on le croit, et on peut dire que jusqu'à notre époque, l'introduction à la vie dévote a été le livre le plus lu, comme je vous ai dit, en France et au Québec, après la Bible. C'est dire l'influence extraordinaire de ce qui y est écrit. Et nous verrons qu'est-ce qu'il y est écrit tout à l'heure. Donc, Saint François de Sales est l'auteur de livres fort intéressants qui peuvent être lus encore aujourd'hui. Et il dit bien qu'on peut et l'on doit tendre à la sainteté, même dans le monde. Et voilà le principe de notre docteur, qui a donné ce docteur de l'Église, il a donné un coup de barre décisif à la spiritualité de l'Église, spiritualité chrétienne. Parce que c'était une affirmation qui peut-être paraît banale à notre époque, que tout le monde doit tendre à la sainteté même dans le monde, mais c'était pas comme ça dans le temps. C'est Pie XI, je vous ferai une émission, ça sera la 400e de mes émissions le 10 février prochain, je consacrerai à Pie XI. Et Pie XI déclarait dans une encyclique qu'il a consacrée justement à Saint François de Sales en 1923, il dit « Saint François de Sales paraît avoir été donné à l'Église pour réfuter un préjugé, à savoir que cette sainteté entraîne tant d'ennuis et d'embarras qu'elle est absolument incompatible avec la situation d'hommes et de femmes vivant dans le monde. Mais non, elle n'est pas incompatible. Paul VI, lui, dans une lettre de 1967 sur Saint-François de Sales, a rappelé la réaction courageuse de Saint-François de Sales à l'égard de l'idée que la sainteté, ce n'était que dans des monastères. À son époque, d'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui reprenaient les condamnations de Saint-Jérôme, qui étaient terribles, lui, et qui vivaient en plein paganisme, et qui recommandaient la vie monastique pour toutes les âmes pieuses. Il envoyait dans les monastères tout le monde qui voulait se sanctifier, dit-on. Cet enseignement avait été repris avec vigueur même par Saint-Bernard, qui est entré, lui, sitôt, quelques années après la fondation de ce grand monastère de Cîteaux, avec toute une bande de jeunes, je crois qu'il y en avait 23 avec lui, les entraînant à la vie monastique. Il y a le janséniste, l'abbé de Saint-Cyran et ses amis, qui vont penser que peu d'âmes se sauvent dans le monde. On sait, d'ailleurs, que pour faire leur salut, beaucoup de gens ont tenu, même à un âge avancé, à rentrer dans des monastères, se disant qu'ils ne pouvaient pas se sauver dans le monde s'ils y restaient. Souvent, on demandait aux chrétiens convaincus qu'ils ne pouvaient pas entrer au cloître de se distinguer des autres hommes, des autres femmes, et de combiner les formes d'ascèse monastique avec leur vie de laïque, de devenir en somme des moines dans le monde. On disait que c'était nécessaire, et on le voit bien dans les traités de Saint-Antonin de Florence, il ne faut pas lire ça, c'est épouvantable. Les macérations puis les prières vocales pratiquées dans le monde par ces gens-là étaient tout à fait accablantes. Hein? Alors que devenait le devoir envers les prochains? On s'en préoccupait pas. Hein? On pouvait se poser la question, comment être un catholique convaincu puis être aimable en même temps? Ces gens-là avaient l'air des zombies. L'évêque de Genève, donc Saint-François de Sales, était inspiré essentiellement par l'esprit de renouveau du Concile de Trente, de son époque. Et sans doute par les écrits de Louis de Grenade. Je vous ai consacré toute une émission à Louis de Grenade le 31 décembre. Il était aussi influencé par l'exemple de Saint-Charles Borromée. Je vous ai fait une émission sur lui le 4 novembre. En tout état de vie, disait-il, le chrétien doit aimer Dieu. La dévotion, c'est donc le fait de tous. Mais on avait oublié que la pratique de la dévotion, c'est-à-dire la pratique de la religion, la pratique d'une vie religieuse intense, peut et doit être accommodée, comme François de Sales le dit. Ça doit être accommodé aux forces, à la santé, quoi, aux affaires, puis au devoir de chaque particulier. Tout ça, ça se rattache évidemment à la notion du devoir d'État dont je vous ai parlé au tout début. La spiritualité du devoir d'État, ça vient de Saint François de Sales. Ça vient de lui. Le chrétien doit donc se sanctifier en plein monde, et même par sa vie dans le monde, même par là, par l'accomplissement des devoirs quotidiens dans sa famille, dans sa profession, dans la société. C'était extrêmement révolutionnaire de sa part. Il le fait selon sa vocation, même la plus humble chrétien, sans attendre des conditions parfaites. Ce qui met le plus à l'abri des illusions dans l'amour de Dieu, disait-il, c'est de porter son effort d'abord sur le devoir d'État. Saint François de Sales y a insisté, et il dit: il y a des sujets auxquels on ne peut douter quelle est la volonté de notre bon Dieu. Comment ce qui dépend des commandements de Dieu et du devoir de notre vocation. C'est pourquoi nous devons toujours regarder à bien dresser ce que Dieu commande à tous les chrétiens et aussi ce que notre vocation requiert de nous particulièrement. Et qui ne fait pas soigneusement ceci ne peut jamais avoir qu'une dévotion trompeuse. En d'autres termes, ne peut être qu'un catholique qui s'illusionne. Il écrit d'ailleurs à une dame du monde: « Il faut que vous vous rendiez tendrement amoureuse de votre état et de ses exercices pour l'amour de celui, Dieu, qui le veut ainsi. Et voici une des formules décisives de l'introduction à la vie dévote. Il dit, « Si les mariés ne voulaient rien amasser, non plus que les capucins, les capucins étaient réputés pour vivre très, 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 très pauvrement. Si les mariés ne voulaient rien amasser, non plus que les capucins, si l'artisan était toujours à l'église, cette dévotion ne serait-elle pas ridicule et déréglée? C'est une erreur, une hérésie de vouloir bannir la tendance à la perfection de la compagnie des soldats, de la boutique des artisans et du ménage des gens mariés. En somme, la perfection, ça doit exister aussi dans les couples, chez les ouvriers, chez les soldats. Il dit, d'ailleurs, on pourrait citer toutes sortes de choses extrêmement intéressantes, il y en a tellement. Il dit d'ailleurs, ça c'est assez extraordinaire, au fils de Madame de Chantal, Sainte-Jeanne de Chantal, elle avait un fils qui était jeune et qui se rend à la cour, où il se passe des tas de choses pas très très catholiques. Il lui dit, lui écrit, « Je ne suis pas aussi peureux que plusieurs autres, et je n'estime pas cette profession-là, vivre à la cour, des plus dangereuses pour les âmes bien nées et pour les courages mâles. » C'est assez surprenant, hein? Alors, il veut libérer ses dirigés, les mettre au large avec Dieu. Il dit, vous devez mesurer la longueur de vos prières à la quantité de vos affaires, des choses que vous avez à faire, quoi. Puis il dit, réglez premièrement vos prières en telle sorte que leur longueur ne fatigue pas votre âme et ne fâche pas les âmes de ceux avec lesquels Dieu vous fait vivre. Prenez bien garde à bien pratiquer l'humble douceur que vous devez à votre cher mari et à tout le monde, car c'est la vertu des vertus. Saint François de Sales a pourchassé sans relâche l'illusion si fréquente des désirs immodérés en dehors de la vocation et du devoir d'État. D'abord, la charité avec les plus proches, et voilà son grand principe. Il dit, ce n'est pas l'importance des actions qui compte, c'est de faire avec le plus possible d'amour ce que Dieu veut, même s'il s'agit d'actions monotones et très humbles. Soyons ce que nous sommes, et soyons le bien, dit-il. Le chemin imposé par notre devoir d'État, il dit, c'est le meilleur pour nous. On a pu se rendre compte, voilà, qu'aux yeux de Saint François de Sales, la question du devoir d'État est inséparable de celle de l'appel des laïcs à la sainteté. Vous le voyez bien. Il a recommandé souvent à beaucoup de dames qu'il dirigeait la visite puis l'assistance des malades pauvres. C'est pas simplement de croire qui sauve, c'est l'action, la charité, la présence aux pauvres. Alors bien des filotés, comme il les appelait, là, je vous l'ai dit au début, des filotés, des amantes de Dieu. Philène, qui veut dire aimer, et théos, qui veut dire Dieu, filotés, des gens qui aiment Dieu. Alors bien des filotés seront parmi les premières auxiliaires de Saint-Vincent de Paul. Et on voit que dans cette notion du devoir d'État des chrétiens dans le monde, il n'y a rien d'étroit puis de mécanique ou d'égoïste. Hein? Quelle libération il a opérée! Pour un chrétien qui cherche Dieu au milieu de tous les embarras du monde, la certitude de le rencontrer dans ses devoirs quotidiens, ça c'est une source d'équilibre, de paix et de joie. Saint François de Sales a eu, par cet appel de tous les laïcs à la perfection, conformément au devoir d'État de chacun, une très, très, très grande influence sur toute la spiritualité moderne. Je ne saurais trop vous le dire et vous le répéter. Le 26 janvier de l'an dernier, il y a un peu plus d'un an, quoi, j'ai consacré toute une émission à la sainteté qui avait été très populaire. Les gens avaient beaucoup, beaucoup aimé ça. Une émission sur la sainteté, justement, qui donne la réflexion, à mon sens, de la pensée à peu près la plus sûre de l'Église, j'espère, sur la sainteté. Le 26 janvier de l'an dernier, la cassette est disponible. Avant de signaler d'autres points sur lesquels Saint François de Sales a marqué l'évolution de la spiritualité par rapport aux laïcs, là, il faut évidemment revenir un peu sur sa vie puis sur ses œuvres, parce qu'il faut absolument parler de l'œuvre majeure le plus riche de saint François de Sales, qui est son traité de l'amour de Dieu. Alors saint François de Sales fonde avec une veuve qu'il dirige depuis 6 ans, la Madame de Chantal, sainte Jeanne de Chantal, dont je vous ai parlé le 12 décembre dernier, en même temps que je vous ai parlé de saint François de Sales. Eh bien, Madame de Chantal, il aurait voulu à Annecy fonder avec elle une congrégation qui aurait été ouverte pour soigner les santé défectueuses, les malades. Une communauté non cloîtrée et qui visitait même, l'espérait-il, les malades pauvres, allait donc dans les quartiers les plus étranges parfois, surtout à cette époque. Et tout cela encore était bien nouveau dans l'Église et toujours dans le sens de l'ouverture au monde. Sa tentative n'a pas été perdue, puisque Saint-Vincent de Paul va le réaliser, lui, plus tard, avec les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul, comme on les appelle, quelques années plus tard. Mais l'archevêque de Lyon, lui, accueille les visitandines dans son diocèse, mais il demande que la clôture traditionnelle, que les Sœurs soient cloîtrées, ça soit obligatoire. François de Sales fait donc des causeries familières à cette nouvelle communauté pour la former à la vie religieuse. Ses conférences reconstituées ont été publiées sous le nom d'Entretien. Saint François de Sales a composé le traité de l'amour de Dieu entre 1610 et 1616 par bribes de temps, en s'inspirant souvent des conférences données justement aux visitandines, à ces religieuses, puis en s'inspirant aussi de la direction spirituelle de Madame de Chantal et de quelques autres mystiques. Ce traité est fait pour aider l'âme qui est déjà convaincue à ce qu'elle puisse avancer dans son projet. Et si Dieu lui en donne la grâce, c'est pour l'aider à atteindre même les sommets de la mystique. Il y parle très, très spécialement du primat de l'amour de Dieu. Donc, l'importance primordiale de l'amour de Dieu. L'importance aussi de l'oraison, de la prière, où on fait confiance à la présence de Dieu, où l'on se met en présence de Dieu, et on s'adoucit et on écoute. Il parle aussi des degrés d'oraison, puis de la confiance filiale en Dieu. En somme, apprendre à aimer Dieu. Avoir confiance en lui, ne pas avoir peur de Dieu, ne pas se dire qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu. Oh, Dieu m'a puni, Dieu a puni, Dieu punit, Dieu punit. Quelle horreur! S'abandonner à Dieu. C'est l'ouvrage, ça, le traité de l'amour de Dieu, le plus doctrinal, si on peut dire, de saint François de Sales. C'est le plus profond aussi. C'est plus étendu que l'introduction à la vie dévote. Hein. Considérer François de Sales seulement comme un moraliste, ce serait bien injuste. Le style est très éloigné de la moralisation. Saint François de Sales a réformé son clergé et son diocèse de Genève. Il a prêché beaucoup dans toute la Savoie et aussi même à Paris, en 2 séjours prolongés. Et les sermons publiés ne sont que des schémas, des reconstitutions d'improvisation. Il lui manque la chaleur et l'action. Il a été considéré comme un prédicateur très efficace. Et saint François de Sales est mort en voyage à Lyon le 28 décembre 1622, en pleine période de Noël. C'est pour ça qu'on ne le fête jamais en pleine période de Noël le 28 décembre. Maintenant que je vous ai très brièvement présenté le traité de l'amour de Dieu, on peut étudier les autres idées principales par lesquelles saint François de Sales a influencé la spiritualité au plus grand bénéfice des chrétiens qui vivent dans le monde. Car à la différence de beaucoup d'autres spirituels, il ne s'adresse pas à un petit groupe de privilégiés, non, non. Sa marque à saint François de Sales, ça a été, parmi les autres auteurs religieux du XVIIe siècle, ça a été de mettre l'accent sur la bonté de Dieu. Je ne l'insisterai jamais assez. Il veut conduire les chrétiens à la joie, dans l'amour de celui qui les a créés. Tout par amour, rien par crainte, dit-il. On devrait mettre ça sur les murs. Hein? Tout par amour, rien par crainte. Ce primat de l'amour est la base de tout ce que saint François de Sales a dit et a fait. C'est fondamental. C'est à lui, à saint François de Sales, que se rattache l'appel à la perfection adressé aux laïcs par l'amour fantastique de Dieu. J'aurais dû le dire dès le début, mais on n'a pas encore rencontré le traité de l'amour de Dieu qui est paru seulement en 1619, 11 ans après l'introduction. Il est certain cependant que c'est important à noter que François de Sales était en possession des idées maîtresses du traité de l'amour de Dieu dès le début de son épiscopat, était nommé évêque très jeune. C'est une grâce très particulière qu'il avait. Il est peut-être le premier à établir toute une architecture de la spiritualité à partir de l'amour de Dieu. Il semble bien que ce soit le premier. Il en fait le principe, le moyen, puis la fin de la perfection. Au début, pendant et comme but de la perfection, c'est toujours l'amour de Dieu. L'amour est même à la base de la conversion, dit-il. On peut parler avec lui d'une ascèse d'amour. Il dit, le cœur étant la source des actions, elles sont telles qu'il est. Telles qu'on a le cœur, nos actions le seront. Et voici rapidement quelques conséquences de cette importance de l'amour chez lui, pour lesquelles saint François de Sales a insisté d'une manière caractéristique. Il commence la réforme par l'intérieur et non par l'extérieur. Il faut, pour arriver à la confiance filiale envers Dieu, là, il faut quoi? Un détachement intime très profond, qui est bien autre chose que les macérations puis l'accumulation des prières vocales à la manière du Moyen-Âge, puis à la manière de certaines personnes même encore aujourd'hui. Ces exercices-là étaient ordinairement impossibles aux laïcs. Au contraire, soit dit en passant, les oraisons jaculatoires, vous souvenez-vous de ça, sont possibles à tous. Les cris d'amour, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. On s'est moqué de ça, de ces formules-là. Elles sont très belles. Il y a beaucoup insisté, ce sont de courtes aspirations d'amour vers Dieu, quoi. Et au milieu des affaires et du travail, ces oraisons jaculatoires, ces cris d'amour, quoi, permettent de mettre cet amour qui fait la valeur des actions, même les plus simples. En l'absence de la confiance filiale, autrement dit de l'abandon, là, qui est le fruit du détachement très poussé, la tranquillité intérieure est impossible. Cette paix que saint François de Sales s'attache surtout à nous procurer, c'est ça, il veut nous donner la paix. Il est vraiment, on pourrait dire, le docteur de la confiance. On ne doit pas s'entortiller, se compliquer les méninges. François de Sales parle souvent de la liberté des enfants de Dieu. Il veut que toutes les âmes de bonne volonté soient plus au large, comme il dit souvent, avec Dieu. Au large, s'éloigner des rives où il y a des rochers, des récifs. Que de fois il a condamné la tristesse, l'inquiétude, l'empressement qui comporte anxiété puis impatience. Savoir être patient avec soi-même. Parce que même dans les épreuves, il dit qu'une joie supérieure peut demeurer dans la fine pointe, c'est-à-dire dans la partie supérieure de l'âme. Il ne faut pas d'ailleurs cacher sa joie d'être chrétien, dit-il. Saint François de Sales l'a répété bien des fois. On doit rendre la dévotion aimable, dit-il. Ce qui importe par-dessus tout, c'est l'amour de Dieu. C'est à la base de l'humanisme chrétien chez saint François de Sales. Oui, j'appelle ça l'humanisme chrétien. Cela demande à être expliqué. Cet optimisme, en effet, cette confiance dans l'homme puis dans les créatures, ça a pour fondement quoi? La croyance assurée à l'amour du Créateur, cet amour qui veut se répandre, cet amour qui a créé l'homme et la femme pour le bonheur, et toutes les créatures ici-bas pour l'homme et la femme. Il a créé les êtres humains pour le Christ et pour lui-même, Dieu. Il appelle tout le monde à partager son bonheur éternel. Voilà donc un autre point très important pour lequel saint François de Sales a donné confiance aux laïcs. Les laïcs devaient-ils vivre dans le monde soumis à la crainte d'un Dieu jaloux, ayant presque mauvaise conscience s'ils n'exténuaient pas leur corps par des macérations, des flagellations à la manière des moines, s'ils ne renonçaient pas à toutes les créatures, à toutes les joies naturelles, à leur bien, à l'amour, aux affections, à la beauté et aux arts? D'après saint François de Sales, Parmi les conseils évangéliques tous admirables, on doit choisir ceux qui conviennent à chaque vocation dans le monde. Puis il est optimiste. Sa mission a été de mettre l'accent sur la charité, sur la bonté de Dieu et sur l'amour de l'homme pour Dieu. Les œuvres du Créateur peuvent être aimées en Dieu, dit-il. On peut appeler cela l'humanisme chrétien, malgré l'ambiguïté de l'expression, à condition de bien comprendre que cet humanisme ne s'oppose pas du tout au surnaturel, mais qu'il est élevé par la grâce. Et en ce début du XVIIe siècle, saint François de Sales n'a pas condamné l'homme nouveau formé par la Renaissance. Il a essayé de le christianiser. Cet humanisme, c'est ce qui perfectionne l'homme. Il manifeste une tendance générale, d'ailleurs, de confiance en l'homme. Il ne dédaigne aucune des ressources humaines. Saint François de Sales intègre largement les valeurs légitimes de l'homme dans l'idéal chrétien. La nature tout entière, les gestes humains, les plus belles œuvres de l'homme sont dignes d'admiration. Le corps même a sa dignité. Il n'y a pas à l'affaiblir comme on le faisait au Moyen Âge. L'acceptation des épreuves quotidiennes vaut beaucoup mieux. Il faut bien noter la séparation nette de la vie naturelle et de la vie chrétienne à la manière de Montaigne, qui l'estimait pourtant, n'est pas admissible pour lui. Il dit « Le chrétien n'est pas un homme tronqué, il est chrétien dans toute sa vie. » Pour François de Sales et pour le disciple du Christ, l'achèvement humaniste ne peut pas se concevoir sans le surnaturel et l'amour filial de Dieu. Pour lui, l'homme est incomplet. S'il n'est pas un chrétien parfait, en même temps qu'exemplaire dans sa fonction humaine, avec un développement harmonieux de toutes ses ressources, le saint est en même temps l'homme le plus heureux. Il insiste beaucoup là-dessus. Parce que le but de l'existence, c'est pas la mort, mais la vie. Et ainsi se réalise la synthèse de nos deux efforts principaux qui tendent l'un au déploiement de la personnalité humaine, puis l'autre, à quoi? Au don de soi à Dieu. Et c'est sûr, il y a le péché originel. Mais saint François de Sales insiste d'une façon très personnelle sur la surabondance de la libération opérée par Jésus-Christ, la rédemption. Jésus nous a libérés et nous libère par la réception des sacrements, par l'amour de Dieu, par l'accomplissement du devoir d'État, par la douceur. Et c'est avec tous ces correctifs qu'on peut dire humanisme chrétien. C'est le mot choisi par Paul VI, d'ailleurs, dans sa lettre sur saint François de Sales. Puis il l'explique d'une façon magistrale en appelant cet humanisme super-humanisme christocentrique. Oh, ça devient un terme peut-être difficile, mais non. Centré sur le Christ, notre conception de l'homme devient grandiose. Et c'est ça qu'il faut comprendre de saint François de Sales, qui est un saint profondément humain, et dont l'enseignement a été d'un réconfort pour les chrétiens qui vivent dans le monde et qui ne renoncent pas cependant à la perfection de l'amour de Dieu. Ce qu'il faut aussi retenir et qui est très important, c'est qu'il est non seulement humain, saint François de Sales, mais il est très compréhensif. Une petite anecdote. À la suite de la mort de sa jeune sœur, il écrit « Mon cœur s'est attendri plus que je n'eusse jamais pensé. Mais quant au reste, oh, vive Jésus, je tiendrai toujours le parti de la providence divine. » Et un peu plus loin, il plaint son cœur de chair, parce qu'il pleure. Il dit d'ailleurs, n'avons-nous pas un cœur humain puis un naturel sensible? Cette imaginaire insensibilité de ceux qui ne veulent pas souffrir, qu'on soit homme ou femme, m'a toujours semblé une vraie chimère. C'est un maître spirituel qui ne veut pas réprimer la joie ou la douleur. Il faut évidemment d'abord se détacher des créatures et s'unir fortement à Dieu seul. Et après avoir réalisé en soi cette, il appelle ça l'indifférence, on peut reprendre l'amour de toutes les œuvres de Dieu, les hommes, les arts, la nature, pour l'achèvement de sa personnalité. L'affaire, c'est qu'on ne les aime plus par convoitise et égoïsme, mais par amour de notre Père, qui a créé tous ses biens, tous ses êtres, et veut que son enfant s'en réjouisse. Alors, saint François de Sales aime les lettres et les arts. Il se plaît à écrire. Il s'exprime d'ailleurs en français littéraire, sur des matières ordinairement alors exposées en latin. On a pu dire qu'il avait créé la langue classique de la spiritualité. Il aime la nature, il en parle souvent, notamment des abeilles, du colombe, des fleurs. L'amour vrai pour Dieu doit se répandre sur son œuvre divine, quoi. Le chrétien peut avoir la vision la plus complète et la plus noble des valeurs temporelles. Saint François de Sales ne dédaigne rien de ce qui fait la vie de presque tous les hommes. Tout dans sa doctrine est pensé en fonction de la dignité de l'homme, de sa vraie liberté, de son plein épanouissement humain et de son salut. Notre vie temporelle, c'est le moyen, c'est le support de notre grande destinée éternelle. Une religion fondée sur la peur de l'humain, par conséquent sur la peur de Dieu, s'en va à sa perte. Car il n'y a pas de place là-dedans pour l'amour, pour la charité profonde. Saint François de Sales traite franchement de l'amour des époux, hein. Il ne gêne pas. François reproche même à Madame de Chantal, la future Sainte Jeanne de Chantal, et à Madame de Chamoisy, des femmes qu'il dirige, de ne pas assez répondre aux désirs de leurs enfants pour leur toilette. Chose étrange, hein? Il dit il faut suivre les lois du monde, puisqu'on y est, en tout ce qui n'est pas contraire à la loi de Dieu. On doit aller à Dieu avec tout son être, donc aussi avec sa sensibilité. Le Christ était un homme parfait. Nous aimons Dieu et nous aimerons tout autre chose. Il a horreur des jugements téméraires et des médisances. Lorsque la charité rencontre le mal, elle essaie d'excuser par l'intention, dit-il. Je vous assure, écrit-il, qu'il n'y a signe plus assuré d'une âme vicieuse que l'inclination à mal penser et à mal parler de son prochain. Quand nous regardons les actions du prochain, voyons-les donc dans le billet qui est le plus doux, dans l'angle, dirait-il, qui est le plus doux. On vient de rencontrer la douceur de saint François de Sales, hein, qui va jusqu'à employer souvent douceur pour charité fraternelle. Dans l'introduction à la vie dévote, il place en tête des vertus qu'il faut préférer, la douceur. Il dit « Il y faut penser à toute heure ». C'est la vertu des vertus. On est excusable de n'être pas toujours gai, mais on n'est pas excusable de n'être pas toujours bon. Il dit même « bonteux », une drôle d'expression de l'époque. À une personne, il va très loin, à une personne qui l'injuriait, il dit « Je veux que vous sachiez que quand vous m'auriez crevé un œil, je vous regarderai de l'autre aussi affectueusement que mon meilleur ami. » Il disait aussi, nous devons faire notre salut par les souffrances et afflictions, en durant les injures, les contradictions et les déplaisirs, avec le plus de douceur qui nous sera possible. Aussi bien les souffrances ignominieuses que les honorables. Enfin, sa douceur pour les frères séparés, les protestants, a fait date également. Il était extraordinaire à l'égard des protestants. Il faut dire que c'était des nouveaux protestants en général, c'était des catholiques qui venaient de quitter l'Église catholique. On le voit, chez lui, la charité fraternelle revient toujours à la douceur. Et beaucoup de personnes dans le monde chrétien ne le connaissent que par sa douceur, d'ailleurs, quand on parle de saint François de Sales, c'est sa douceur. Et pourtant, il avait un très mauvais caractère, au fond. Il se dominait. Ses traits de la douceur au milieu du monde sont devenus ceux de la charité chrétienne. Et qui pourrait nier que cette douceur ne soit pas, comme en son temps d'actualité aujourd'hui, une époque de violence. D'ailleurs, le Christ s'était défini ainsi. Vous vous souvenez de la parole de Jésus, hein? « Prenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Et François de Sales a contribué plus que tout autre à le rappeler. Les principes de base les plus importants qui ont été efficaces, eh bien, ils se rattachent tous à l'amour confiant pour Dieu. Dans l'œuvre de saint François de Sales, et particulièrement dans son traité de l'amour de Dieu. Ils sont si sûrs, ces principes-là, étant repris à la loi d'amour alors oubliée, que sa spiritualité ne se distingue plus de la spiritualité catholique. Au fond, tout ce qu'il dit est profondément chrétien-catholique. Voici les principes. L'appel des laïcs à la perfection. Le meilleur moyen d'y tendre pour les laïcs, faire avec amour leur devoir d'État, c'est-à-dire la volonté de Dieu dans les conditions où il les a placés en plein monde. Être optimiste en aimant Dieu dans sa providence et dans ses créatures avec un cœur purifié. Puis aimer Dieu dans le prochain avec douceur. Il y a là, tout spécialement pour les laïcs, une grande libération. Qui annonce de loin un autre tournant spirituel, c'est celui du Concile Vatican II, quoi. Dans le sens de l'ouverture au monde. Saint François de Sales, un très grand saint, qui a transformé tant d'âmes. Ô Seigneur Père, pour le salut des âmes, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Fais que, soutenu par son exemple, nous donnions une preuve de ta douce charité. En nous dévouant pour nos frères, nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint pour les siècles des siècles. Amen.